Alors, bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Avant de démarrer, je vais essayer là pour l'instant, je ne sais pas si c'est enregistré, de parler dans le micro. Voilà, juste avant de démarrer, pendant pratiquement 3 mois, tous les matins, nous avions dans notre boîte aux lettres mail ou par téléphone une méditation. Alors c'est vrai qu'on est plusieurs à avoir travaillé sur différents sujets et c'était une joie de le faire et merci à tous ceux qui l'ont fait. Jean-Marc en a déjà parlé. Ce que Jean-Marc ne dit pas, c'est que tous les soirs, très tard en soirée, il passait quelques heures avec toutes les adresses mail et puis avec toutes les adresses smartphone à transférer toutes ces méditations pour environ 60 personnes. Donc voilà, j'aimerais qu'on remercie Jean-Marc et que voilà, il sera toujours très effacé sur tout ce travail qu'il a fait, mais voilà, je pense que c'était voilà, c'est ce qui a maintenu le lien. On parlait de la rosée tout à l'heure, je pense que pour beaucoup, voilà, ces méditations ont été aussi comme une rosée, quelque chose de rafraîchissant, d'encourageant. Donc voilà, merci Jean-Marc pour tout ce travail. Fin de la semaine dernière, voilà, je trouvais que c'était juste que Jean-Marc préside ce premier culte de reprise et puis voilà que j'apporte une parole. Alors, j'ai fait un petit carrousel de tous les sujets et thèmes possibles que je vous pouvais prendre. Et puis, chaque matin, je disais, oh, tiens, celui-là, il est bien, celui-là, il est bien. Et puis lundi, mardi, il y en a un qui, voilà, qui s'est détaché. On sort de pratiquement 3 mois de temps d'isolement, on dit de distanciation, ça fait plus riche. Dans l'écriture, quand on dit mise à part ou mise à l'écart, c'est aussi la traduction pour un temps de sainteté, de sanctification. Être saint, c'est simplement être mis à part pour Dieu. Alors peut-être que ces 3 mois ont été pour les uns et les autres, eh bien aussi un temps de mise à part pour Dieu, de mise à l'écart. Mais en tous les cas, dans l'écriture, il y a toute une richesse d'expérience qui s'appelle l'expérience du désert. J'étais content que Hervé Laurence choisisse ce chant, le désert refleurit. Un temps de désert, c'est un temps qui est ambivalent. Ça peut être un temps extrêmement désagréable. Personnellement, j'ai jamais été dans un désert physique, Sahara ou enfin des lieux arides. Bon, j'ai fait un voyage en Israël, mais on était en petite équipe. On avait toutes les bouteilles d'eau dans le bus. Et puis, on n'est jamais resté des heures à marcher au chaud dans le désert. Donc, je ne sais pas qui parmi nous a cette expérience, mais en tous les cas, au niveau spirituel, c'est une réelle expérience. Une expérience de mise à part, de mise à l'écart, un temps peut-être de stress, de chaleur, de questionnement, d'interrogation, de difficulté. Je ne sais pas comment chacun a vécu ces 3 mois. Là aussi, nos expériences sont diverses. Et je me disais bien que cette expérience de désert pouvait nous parler encore aujourd'hui. J'aimerais prendre avec vous un texte dans le livre du prophète Osée. C'est un des textes, un des grands classiques par rapport au désert. Osée au chapitre 2, les versets 16 à 25. C'est vrai que c'est un texte que j'aime bien relire de manière régulière. Osée 2, 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, la vallée d'Achor, comme une porte d'espérance. Là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée, la guerre. Je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le moût, l'huile, ils exauceront Israël. Je planterai pour moi l'orushama dans le pays. Je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau ami, tu es mon peuple. Il répondra, mon Dieu. Un temps de désert peut être un temps de rencontre particulier avec Dieu. Je crois que c'est l'Apocalypse, dans les... ces lettres aux églises où il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu l'amour de ta jeunesse. Un temps de désert peut être un temps où on recherche, où on retrouve l'amour de la jeunesse. Un temps d'union, un temps de fiançailles. Dieu a tiré Israël au désert pour un temps d'union, un temps de fiançailles. Et même si en même temps c'était un temps difficile, chaque jour il y avait la manne qui tombait. Chaque jour Dieu faisait quelque chose de nouveau, même si ça a duré longtemps. Dieu les a accompagnés. Ce texte d'Osée est un temps de promesses extraordinaires. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alors peut-être que ces 3 mois ont été un temps où Dieu parlait de manière particulière. Certains, certaines d'entre nous. Le désert peut être un lieu d'isolement, de distanciation, d'épreuve, de danger, de combat, de stérilité. Ça peut être aussi un lieu de sécurité, de refuge, un lieu de fécondité, un lieu de renouveau. Quelque chose de nouveau peut naître dans le désert. Le désert peut refleurir. Si jamais vous avez vu des images d'Israël, de vallées où il n'y a que des petits cailloux et puis du sable, des roches, et puis tout d'un coup, à une période du printemps, il pleut, et quelques jours après, les plantes n'ont que quelques jours, même pas des semaines ou des mois, quelques jours pour pousser et fleurir, avec des couleurs flamboyantes, des jaunes, des oranges, des rouges, des couleurs que l'on voit bien. S'il pouvait en être ainsi dans nos vies, qu'après un temps de distanciation, de mise à l'écart, un temps d'isolement, eh bien, quelque chose de nouveau puisse renaître, puisse revenir. On poursuit dans le même livre, au chapitre 13, les versets 5 et 6. Au verset 4, « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés de leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. » Dieu a eu un temps d'union, de fiançailles avec Israël au désert. Ça a duré un certain temps. Peut-être pour eux c'était long, je ne sais pas. Mais ça a été un temps où la nation s'est constituée. Et puis aussitôt, plus ou moins en sécurité dans le pays, au fur et à mesure, ce peuple s'est éloigné de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. On ne va pas faire un scanner, une autopsie d'Israël aujourd'hui. Mais je pense que Dieu soupire après un temps de réconciliation, de renouveau, de rénovation de revitalisation de cette nation, mais il désire aussi le faire dans nos vies. J'aimerais prendre avec vous encore un texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43, à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis de l'eau dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pouvoir passer à autre chose. Pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Peut-être que ce temps de Covid-19, je pense que pour nos générations, générations qui viennent, ça aura marqué quelque chose d'extraordinaire. Peut-être en même temps, on s'en rappellera toujours, je ne sais pas là comment chacun, on va utiliser ce mot moderne, la résilience, comment chacun va passer. L'Ouest, le Grand Ouest, a été un petit peu à part, avec assez peu touché par ce virus. Mais malgré tout, voilà, au travers des familles Taubois, on a su que c'était proche. Comment est-ce que l'on va passer à autre chose? Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que nous aspirons à des choses nouvelles? Une nouvelle révélation, une nouvelle découverte de qui est le Dieu vivant? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Pouvoir retrouver ensemble un chemin de louanges commune. Pouvoir dans quelques semaines à nouveau s'embrasser, se serrer la main, être côte à côte sans distanciation.370 textes sur le désert dans l'écriture. Jean-Marc s'est dit « Ouf, on ne va pas tous les lire. » Bon, c'est facile, on prend une concordance et puis on compte le nombre de fois. Voilà, mais c'est simplement pour dire aussi que c'est un thème dans l'écriture qui est très, très développé. On le retrouve dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Énormément de personnes, de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, ont connu des temps de désert. J'aimerais juste prendre deux, trois personnes en exemple. La première, j'aime beaucoup son histoire. Ce n'est pas quelqu'un dont on parle beaucoup. Dans les lettres de Paul, dans les Galates, elle est un petit peu, non pas déconsidérée, mais ce n'est pas forcément l'exemple à suivre. Et en même temps, je trouve qu'elle a vécu une histoire extraordinaire. C'est l'histoire de Hagar, la servante égyptienne de Sarah, la femme, l'épouse d'Abraham. On lit dans Genèse au chapitre 16. Quelqu'un qui a vécu des temps difficiles, quelqu'un qui symbolise pour moi un petit peu tous les païens qui vont rentrer dans l'Église, dans la communion avec Dieu. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. » Est-ce que c'était une servante ou une esclave? Là, je ne sais pas. Peut-être c'est quelqu'un qui avait été acheté. En tous les cas, c'était une des coutumes à cette époque-là. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Parfois, l'Église a regardé Israël avec mépris. Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita. Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Voilà, etc. Abraham était âgé de 86 ans. Conflit familial. Sarah est stérile, elle n'a pas d'enfant. Elle meurt auprès de son mari, sa servante, Agar, et cette servante est enceinte. Tout d'un coup, comme on dit, à un moment donné, elle se prend le melon. Elle dit, c'est moi qui vais donner un héritier à mon mari, à mon maître. Et puis les relations avec Sarah se détériorent, l'orgueil dans sa vie. Et puis elle est chassée, chassée au désert. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. En même temps, elle a de la chance. Elle est dans un désert où il y a une source. Elle peut quand même s'abreuver, elle peut quand même continuer à vivre. Et puis là, elle fait une rencontre avec l'ange de l'Éternel, sans doute la figure du Christ, du Fils de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, un ange particulier à qui on s'adresse comme à Dieu lui-même. Donc c'est une rencontre importante. Dieu prend soin de nous, même quand nous sommes dans le désert. Il nous questionne, il nous accompagne, il dialogue avec nous. Agar, d'où viens-tu ? D'où venons-nous ? 3 mois d'isolement, de mise à l'écart, chacun l'ayant vécu différemment. Est-ce que pendant ce temps d'isolement, nous avons été accompagnés par une source ? Est-ce que dans nos déserts, il y avait une source ? Est-ce qu'il y a eu ce dialogue, cette relation avec Dieu ? Agar, servante de Sarai, l'ange de l'Éternel s'adresse à elle, nommément, personnellement. D'où viens-tu et où vas-tu? Ces questions sont toujours d'actualité dans nos vies. Différents moments de nos vies, différentes épreuves, ou même quand on a vécu des grandes bénédictions, parfois après il y a un temps difficile. Et il y a toujours cette interrogation de Dieu. D'où viens-tu, où vas-tu ? C'est des questions universelles. C'est des questions courtes. L'ange de l'Éternel ne fait pas tout un grand discours. D'où viens-tu ? Où vas-tu ? J'essaye de trouver un refuge. Je fuis ma maîtresse. Les relations sont pas bonnes. Puis là, je lui donne ce conseil. Mais voilà, fais un effort. Et retourne. Et puis avec elle, une relation, si ce n'est de soumission, d'humilité. Et puis en même temps, dans sa fuite, Dieu lui donne une promesse. L'enfant qui naîtra de toi, eh bien, deviendra un peuple nombreux, sécurise son parcours. Et là, on sait qu'avec Ismaël, la relation Israël-Ismaël va être difficile. Elle l'est encore aujourd'hui, hein, c'est une source de conflit. Mais en même temps, j'aime beaucoup cette figure, cette personne, cette personnalité de Hagar. Elle préfigure chacun d'entre nous, les païens. Nous n'avions le droit à rien. Nous étions exclus de l'alliance, de la relation avec Dieu. Et le Christ a su venir nous chercher, nous pécher un par un. Il a su nous poser cette question, d'où viens-tu, où vas-tu? Est-ce que je peux marcher avec toi? Est-ce que je peux être une source pour toi? Est-ce que je peux te conduire vers une vie d'abondance? L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Tous ceux qui sont issus d'Abraham ont été bénis. Même si ça va poser des problèmes qui sont récurrents jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais poursuivre et lire avec vous au chapitre 21. Hagar va vivre deux fois le même scénario. Peut-être parfois dans nos vies, il y a des scénarios qui se répètent. Le désert une fois, une deuxième fois. Genèse 21, verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Elle dit à Abraham, chasse la servante et son fils. Le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Je crois qu'Abraham aimait ses deux enfants, Ismaël et Isaac. Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. L'héritage, la postérité d'Abraham, c'est Isaac. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar. Le plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. C'est le désert qui est tout en bas d'Israël. C'est le plus grand désert d'Israël. C'est énorme. Elle est chassée une deuxième fois avec un peu de pain et puis de l'eau. Et elle s'égare dans le désert. Double épreuve. Non seulement elle est chassée, mais en plus elle est perdue, elle est égarée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. Elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle voit la voix et pleura. Les expériences de désert peuvent être parfois difficiles. Si on avait de quoi résister au début, parfois à la fin, on manque de tout. Et puis la promesse de Dieu, elle s'en va, elle est prête à mourir. Et c'est peut-être des temps où on pleure. La souffrance, de la douleur, de la difficulté, de l'incompréhension. Peut-être une voix ou un point qui se lève vers le ciel avec, et c'est là où on questionne Dieu, mais pourquoi moi, pourquoi ça? Dieu entendit la voix de l'enfant, la voix de la promesse. L'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'est-ce que tu vis? Je viens pour te rencontrer dans ta détresse. Ne crains pas. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Dieu entend la voix des promesses qu'il nous a faites. Même si on lui crie, si on lui jette au visage ses promesses, en disant, mais tu m'avais dit telle ou telle chose. C'est où? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi ce lieu où je suis placé? Qui est un lieu difficile. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, le donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit et habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Les descendants d'Agar, d'Ismaël, toujours vécu au désert, c'est toutes les nations arabes touchées par l'islam aujourd'hui, qui sont en vis-à-vis d'Israël. Et puis, ça nous touche encore jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu a su rencontrer Agar dans son désert. Dieu, lui, ouvrit les yeux. Agar a vécu dans le désert, un lieu de questionnement. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Un lieu de renouveau, elle a trouvé une source, elle a trouvé de l'eau. Un lieu de révélation, Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle a rencontré du secours, elle a rencontré de la fraîcheur, un puits d'eau. Et Dieu lui a renouvelé ses promesses. Ton fils Ismaël deviendra une grande nation. Il habitera quand même dans le désert, c'est-à-dire que ce sera moins confortable que d'autres lieux. Mais en même temps, voilà, Dieu a été jusqu'au bout de ses promesses. Et ces deux peuples, Israël, les descendants d'Isaac, Israël, les descendants d'Ismaël, les Arabes aujourd'hui, ont toujours eu ce qu'ils devaient avoir. C'est repris par Paul, hein. Il dit Agar, voilà, c'est une postérité terrestre, charnelle. Isaac est l'enfant de la promesse, quelque chose de plus spirituel. Mais en même temps, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire de cette femme. Je trouve que c'est une histoire encourageante pour nous. J'ai été comme Agar, en fuite, loin de tout, révolté. Puis Dieu nous touche, Dieu dialogue avec nous, il dit, mais qui es-tu, où vas-tu, qu'est-ce que tu fais? Puis il nous montre tout d'un coup l'accès à une source, à un rafraîchissement. À la parole de Dieu est quelque chose de nouveau se lève. C'est bien de se laisser questionné par Dieu. C'est bien de lui demander du renouveau. C'est bien de vouloir grandir dans la révélation, d'avoir soif de l'écriture, de soif de comprendre qui est Dieu. Quelle est son action sur la terre, parmi les hommes, dans notre propre vie, dans la vie des nations. C'est un lieu aussi où Dieu renouvelle sa promesse. Est-ce que Dieu a encore des promesses à vous donner ou à renouveler ou à exaucer? Est-ce que l'on a soif de recevoir encore des promesses de Dieu? Un temps d'isolement, un temps de désert, ça peut être un temps dangereux, mais ça peut être aussi un temps extraordinaire de sécurité, de refuge, de fécondité, de renouveau. Plein d'hommes de Dieu ont vécu et de femmes de Dieu ont vécu des choses par rapport au désert. Que ce soit Moïse, 40 ans tout seul, avec ce face-à-face qui va faire la charnière avec 40 ans de mission dans le désert, avec Israël. Pour Moïse, ça fait 80 ans dans le désert. Je pense que c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans le désert. Avec Israël, il n'était pas confiné parce qu'ils étaient quelques centaines de milliers. Mais pour Moïse, le désert, ce sera la rencontre avec Dieu au Sinaï, sur la montagne. Deux fois 40 jours de jeûne et prière en face à face avec Dieu, pratiquement à suivre. Je pense qu'il a vécu quelque chose qu'aucun homme n'a vécu. Est-ce que dans nos déserts, il y a une montagne, il y a un Sinaï, il y a une rencontre avec Dieu? Ça a été un lieu d'enseignement. Moïse a reçu les tables de la loi, il a reçu toutes les lois pour Israël. Ça a été un lieu d'alliance pour lui, pour Israël. Je crois que c'est l'Épître aux Hébreux qui dit, hein, que dirions-nous de David, de Élie, etc. Même dans le Cantique des Cantiques, dans Ésaïe, on a plusieurs textes sur le désert. Je vous laisse avec ce personnage d'Agar. Relisez à tête reposée son histoire. Je trouve que c'est vraiment ce qu'elle a vécu avec Dieu est encourageant pour chacun d'entre nous. On veut prier ensemble. Père Céleste, merci pour ta grâce et merci de nous avoir accompagnés chacun pendant ces 3 mois. Merci d'avoir su nous poser les questions de l'existence essentielle. Merci de nous avoir permis de renouveler notre alliance avec toi. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur ta présence dans nos vies, ici-bas, dans le monde, dans l'Église, d'avoir ouvert nos yeux pour renouveler notre relation avec toi. Merci de nous conduire dans une nouvelle révélation, une nouvelle promesse. Merci de garder nos cœurs attachés à toi. Christ Jésus, sois béni. Tu es plus que l'ange de l'Éternel pour nous. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es aussi celui qui est la source de toutes choses pour chacun. Source de vie, de promesse, de résurrection. On veut te bénir, de continuer de nous accompagner encore et encore. Amen.